enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans le psaume 31, 16. Et vous allez découvrir avec moi ce verset. Qui connaît ce verset avant de regarder? Plusieurs vont se rappeler. Ah oui! Mes destinées sont dans ta main. Ça y est, ça leur rappelle quelque chose. Eh bien oui. Mes destinées sont dans ta main, disait le psalmiste. Et un petit titre pour le psaume 31, c'est « La prière confiante dans l'épreuve ». Qu'on soit dans l'épreuve ou pas dans l'épreuve, il est toujours bon de prier et il est toujours bon de comprendre aussi que nous sommes destinés à quelque chose. Être destiné, ça veut dire tout simplement « j'ai une destination ». Ça, nous comprenons dans le naturel. Si je vais me rendre dans un magasin, c'est ma destination. Si je me rends à mon travail, c'est ma destination. Eh bien, dans le spirituel, je trouve des fois on complique un peu les choses, mais nous avons une destination éternelle, c'est d'être dans la gloire de Dieu, auprès de Dieu, pour toujours. Et nous avons aussi une destinée ici-bas et maintenant. Nous ne sommes pas ici par hasard, même si certains croient qu'ils sont nés par hasard, Dieu l'a vu. Dieu l'a vu et avait un destin, il avait un plan pour leur vie. Ça n'existe pas, ça, d'être simplement un objet du hasard. Dans le mot « destiné » ici, que nous avons au pluriel, nous avons une multitude de choses auxquelles Dieu nous a destinés. Pas seulement une chose, mais beaucoup de choses. Tout le monde dit beaucoup ? Beaucoup. Et une des choses que nous avons besoin de faire, absolument, c'est, bien sûr, d'obéir au commandement de Jésus, c'est d'obéir au commandement de former des disciples. Il a dit « faites des disciples ». Nous sommes tous destinés à faire des disciples. Chacun d'entre nous doit former un disciple. Alors dans le naturel, les choses les plus simples, c'est que nos enfants, eh bien nous aimerions qu'ils deviennent des disciples de Dieu. Et nous avons une promesse à ce sujet. Vous savez où elle est la promesse? Quels sont ceux qui en connaissent une? Il y en a une écrite derrière moi. Et acte 16, 31. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et quelqu'un avait une autre parole? Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera plus âgé, il ne s'en écartera pas. Mais il y a aussi, Ésaïe 54, 13, tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Alors beaucoup de gens qui raisonnent dans le naturel disent « Mais comment on peut savoir ça? On ne sait jamais ce qu'ils vont devenir. » Ce qu'ils vont devenir, ils le décideront. Mais ce que nous voulons qu'ils deviennent, nous le décidons aussi. Nous décidons ce qu'ils, nous voudrions qu'ils deviennent. Pas dans le sens que nous avons décidé à l'avance quelle profession ils vont avoir, quel conjoint ils auront, quelle maison ils habiteront. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais nous avons décidé que nos enfants ne serviraient pas le diable. Vous avez décidé ça? Nous avons décidé qu'ils n'iraient pas en enfer. Ça, c'est notre prise de position. Et c'est important de le faire. Je crois que trop de gens ouvrent une grande brèche à toutes sortes de possibilités en disant « ils choisiront plus tard ». Ils choisiront dans la mesure où nous les aurons encouragés à choisir. Le monde ne fait pas autre chose. Il forme la pensée des gens pour qu'ils soient bien dans le moule et qu'ils aillent avec le flot. Comme ça, il n'y a pas de problème. Eh bien, nous voulons influencer de la bonne façon nos enfants. Donc, nous sommes destinés à former des disciples, nous sommes destinés à élever des enfants. Et maintenant, pour ceux qui disent « moi, j'ai pas d'enfants », alors ça ne me concerne pas. Si, ça te concerne, parce que nous avons tous besoin d'avoir aussi des enfants spirituels. Nous avons besoin aussi de ne pas dire simplement « eh bien, je ne m'occupe pas des affaires à droite à gauche », parce que Dieu regarde l'Église comme une famille. Quelque part, nous pouvons même voir une responsabilité par rapport à des choses que nous voyons chez les enfants des autres. Nous avons au moins une responsabilité dans la prière. quand nous voyons que quelque chose ne va pas, au moins. Et donc Dieu a un plan, il a des buts pour nous, et puis c'est quelque chose de formidable. Alors la question qu'on peut poser à tout jeune, je parle maintenant de jeunes dans le sens de ceux qui doivent recevoir, c'est de lui poser la question, quelle est ta vision? As-tu une vision pour ton avenir? Je pense que tout le monde imagine des choses, rêve de certaines choses. Moi, je me rappelle très bien que à 10 ans, j'avais une image. J'imaginais comment je pourrais être à l'âge de 30 ans. Établi, ayant une maison, étant marié, ayant des enfants. Je pouvais imaginer cela. Et je pense que des jeunes peuvent aussi imaginer des choses. Certains imaginent et rêvent de devenir pop star. Bon, ils imaginent ça. Mais ils ne comprennent pas que ce n'est pas vraiment quelque chose qui est à envier. Ces personnes sont souvent très malheureuses et beaucoup terminent mal dans la dépression et le suicide. Mais bon, c'est une illustration. Et donc, nous avons besoin de voir quelle est la réussite selon Dieu. La réussite selon Dieu, bien, passe par une formation. Il y a une formation. Je me suis demandé, je ne sais pas si vous êtes demandé ça déjà, mais réfléchissez un instant par rapport au développement de l'être humain. Un poulain, quand il naît, quelques minutes après sa naissance, il est debout sur ses pattes. Et après, il marche assez rapidement. Et au bout de... Je ne suis pas un spécialiste des animaux, hein, je ne pourrais pas vous dire, mais il y a des animaux, ils ont atteint l'âge adulte au bout de 1 an, 2 ans. Certains animaux, même petits, plus rapidement que ça encore. On peut dire qu'ils sont pleinement développés. Et ils sont capables déjà de se reproduire et ils sont à l'âge adulte. Et pour les gens, ça met combien de temps? Je me suis dit, tiens, c'est quand même... Nous sommes, je vous dirais, une race à part. Nous sommes la race de Dieu. Nous ne sommes pas un animal évolué. Nous sommes la race de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes créés à son image. Le développement pour nous est plus long parce qu'il nous mène plus loin. L'animal, il ne comprend rien sa destinée. Il n'en a pas. Il est là, il broute l'herbe. Et puis un jour, il sera plus là. Il sera passé à la boucherie. C'est pas une destinée. C'est pas une vie enviable. Mais il se rend pas compte. Parce que Dieu, il nous est dit dans la Bible, Dieu lui a refusé la sagesse. Dieu n'a pas donné aux animaux la sagesse, dans le sens spirituel du mot. Bien sûr, les animaux ont l'instinct, ils ont une certaine intelligence, mais nous, êtres humains, avons quelque chose de tellement plus grand. Alors, combien c'est décevant quand nous voyons des hommes et des femmes qui vivent comme des animaux. Ils ne pensent qu'à leur ventre, et ils vivent simplement pour les choses charnel dans le sens pas seulement du corps, mais de tout ce qui est simplement humain sans sa dimension spirituelle. Alors le développement, il met longtemps. Mais Dieu nous a destinés à élever des champions pour Dieu. Vous vous rappelez de ça? Eh bien, Dieu nous a destinés à élever des champions pour Dieu. Et quelqu'un qui dira peut-être, mais moi, j'ai mes enfants qui sont grands, ils sont partis de la maison maintenant, c'est plus mon problème. Nous avons constamment encore la possibilité d'exercer une influence. Même nos enfants resteront toujours nos enfants toute notre vie. Ça ne dépend pas de la taille qu'ils ont. Ça ne veut pas dire se mêler de tout ce qu'ils vont prendre comme décision, mais il est néanmoins nécessaire de comprendre que notre influence peut aller toujours à l'égard de nos enfants pendant toute notre vie. Et des enfants intelligents, ils sauront quand aller vers leurs parents pour leur demander conseil. Et des enfants spirituels intelligents le feront aussi. Ils diront vers leurs parents spirituels et leur demanderont conseil. Au lieu de faire seulement à leur tête, ils demanderont ce sera leur pasteur ou quelqu'un qui les aura conduits à Christ ou quelqu'un qui est une autorité dans le royaume de Dieu. Et ils diront, Dieu voudrait savoir quoi faire dans telle et telle situation. Donc le développement. Voyons dans Luc 1, 80. Qu'est-ce que nous y lisons? Nous lisons concernant Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il a été rempli du Saint-Esprit. Il a prophétisé sur son fils. C'était un couple, Zacharie et Élisabeth, qui étaient des gens qui servaient Dieu de tout leur cœur et qui étaient droits devant Dieu. Et leur enfant a été béni. Au verset 80, il nous est dit « Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. » C'est intéressant de voir qu'il ne regardait pas simplement la croissance d'un enfant au niveau physique. Nous sommes très concernés des fois par la taille. Est-ce qu'il est grand, petit, gros, mince? Très important. Mais je me dis, est-ce que nous portons une importance aussi grande à la croissance spirituelle, celle de l'esprit? Et je dis, c'est un drame quand des personnes qui ont un certain âge sont toujours des bébés en Christ. Ils n'ont toujours pas développé spirituellement. Donc, concernant le fait d'élever des champions pour Dieu, j'aimerais parler plus particulièrement de tout le côté éducation et instruction. Ça va, on va parler un petit peu de la scolarité aussi, sachant que nous sommes tous à l'école de Dieu. Nous avons tous à apprendre pendant toute notre vie. Qui peut dire « je sais déjà tout » ? Dès que vous dites « je sais déjà tout », vous vous coupez de la source de sagesse qui est Dieu et vous l'empêchez de continuer de vous instruire et de vous enseigner. Il y a des personnes qui ont cette mauvaise réaction. Dès qu'on dit « ah, ben regardez, si je disais maintenant, regardons dans la Bible Jean 3,16 », beaucoup auraient la réaction « ah oui, je connais déjà, Dieu a tant aimé le monde ». Nous devons nous approcher de la parole de Dieu comme quelqu'un qui serait affamé, qui se jette sur la nourriture. Et que nous ayons aussi soif d'apprendre, soif de nous laisser former. Dans Luc 2, si vous êtes dans Luc 1, vous tournez votre page, et le dernier verset, verset 52, dit la chose suivante. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Sagesse, stature et grâce. Une croissance équilibrée. Une croissance où vraiment on voit là, il y a la marque de Dieu, parce qu'il grandit en faveur. Grâce, ça veut dire la faveur. Il avait la faveur de Dieu dans ce qu'il faisait. Mais les hommes aussi reconnaissaient. On n'a pas beaucoup de choses qui nous parlent de l'enfance de Jésus, mais nous savons que à l'âge de 12 ans, on nous en parle, au verset 42, lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils étaient montés à la fête, comme c'était l'habitude. Et puis, après, ses parents l'ont perdu dans la foule. Et ils l'ont pas trouvé, ils l'ont cherché, ils ont retourné à Jérusalem. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ils les écoutaient. Ça, c'est une chose. C'est ce que vous faites. Vous êtes en train d'écouter. Vous écoutez la parole de Dieu. Mais au-delà, qu'est-ce qu'il est dit? Il les interrogeait. Ça veut dire qu'il n'écoutait pas seulement passivement. Et puis, ah, ben, j'ai encore écouté un message de plus. Il écoutait et il y avait des questions qui surgissaient en lui. Et il voulait des réponses. Est-ce que vous voulez des réponses? Vous êtes content juste de ce que vous avez? Nous, bon, c'est ma situation, c'est que je désire savoir plus de Dieu. Je désire connaître encore des choses de lui. Et donc, il interrogeait, mais au bout d'un moment, il nous est dit, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Ça veut dire qu'à un moment, c'est Jésus qui interrogeait les autres, et quand ils ont vu l'intérêt de ce garçon, ça s'est renversé. C'est eux qui ont commencé à lui poser des questions, et c'est lui qui donnait les réponses. C'est quand même extraordinaire. C'est lui qui commençait à donner les réponses, et ils étaient frappé de son intelligence. Est-ce que vous aimeriez aussi, je parle maintenant aux parents, que vous soyez frappés, ou les autres soient frappés de l'intelligence de vos enfants? Vous aimeriez ça? Vous savez où elle est la source de l'intelligence? C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu avant tout. C'est pas dans le système scolaire. Ça, c'est qu'une formation. Mais la source de l'intelligence est en Dieu. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais je vous rappelle simplement cette petite histoire que vous avez peut-être lue dans un des témoignages de Kenneth Hagin, quand il disait qu'il y avait une jeune fille qui était attardée mentalement. Il est dit qu'elle se comportait comme une petite fille, même à 18 ans encore. Eh bien, elle grimpait au-dessus des chaises dans l'église et se comportait comme un bébé. Des fois, elle s'allongeait sur un banc et elle s'endormait. Elle n'avait pas une intelligence développée. Et un soir, elle s'est convertie. Elle a reçu la nouvelle naissance. Et en même temps, il y a une transformation totale spirituellement. Et il a dit, et cette jeune fille, elle s'est mariée, et son mari est décédé, et était assuré, donc elle a eu une assez grande somme d'argent, et cet argent, elle a investi, et elle a géré la construction de toute une partie de la ville. Et quand lui, il a vu la transformation, il se rappelait encore de ce que c'était cette jeune fille avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Il y a le monde entier parle de l'an avant Jésus-Christ et l'an après. Chacun d'entre nous, nous avons besoin qu'il y ait un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Mais ça fait toute la différence, même au niveau de l'intelligence. Croyez-le. Vous pouvez vivre votre vie, je dirais, comme vous voulez. Vous pouvez dire, je suis limité, je ne peux pas, mes enfants ne peuvent pas. Et vous pouvez dire toutes ces choses. Ou alors vous pouvez dire que tout est possible avec Dieu. Même des changements au niveau de l'intellect et au niveau des capacités que nous avons. Nous allons voir dans un instant concernant les capacités. Mais je voulais simplement dire déjà cela par rapport au développement. Nous pouvons nous attendre à un développement surnaturel. Si vous attendez que aux choses naturelles, vous aurez exactement ce que vous attendez. Des choses naturelles, des bonnes choses, des fois des choses moins bien. Mais nous voulons l'extraordinaire parce que notre Dieu est celui qui change notre ordinaire en extraordinaire. Vous le croyez ça? Vous croyez que Dieu peut changer quelque chose? Ou c'est juste le Dieu des théologiens, des livres et d'un savoir biblique? C'est bien la connaissance. Mais ce qui est mieux que la connaissance intellectuelle, c'est la connaissance de Dieu. Apprenons le plus rapidement possible à nos enfants à avoir une relation personnelle et vivante avec Dieu. Il est la source de toute intelligence. Le proverbe 1 nous dit la chose suivante. C'est une exhortation d'un fils, d'un père à son fils. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, Salomon passait pour l'homme le plus sage qui ait jamais existé. Oui, c'est vrai? À part Jésus. Il a surpassé. Mais sinon, on n'en avait jamais vu quelqu'un qui était aussi rempli de sagesse et de connaissance. Et pourtant, voilà ce qu'il a écrit. Il a dit, c'est pas seulement pour moi. Parce qu'il aurait pu dire, moi, j'ai une vision de Dieu. Il avait ce songe, vous savez, où Dieu lui est apparu. Mais il a dit, non. Il a écrit pour que d'autres puissent bénéficier de ses expériences. Connaître la sagesse et l'instruction, comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens. Nous avons besoin de bon sens. Chacun d'entre nous. Tout le monde dit bon sens? Bon sens. De justice, d'équité, de droiture. Pour donner aux simples du discernement. Des fois, il y avait, autrefois on disait c'était l'idiot du village. Hein? Il y avait des fois des gens qui étaient simples. Et pas très, ils avaient peut-être un handicap, peut-être léger ou plus grand, c'était mental. Donc, ils étaient simplets. Et les gens faisaient pas tellement de tact. Des fois, on se moquait d'eux. On disait c'était l'idiot du village. Mais ici, moi, je préfère être quelqu'un qui prend une position humble et dit « je suis simple » pour recevoir la sagesse de Dieu et après dépasser tous ceux qui se croient intelligents, mais où leur intelligence les conduit loin de Dieu. Donnez aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, il augmentera son savoir. Que celui qui est intelligent et celui qui est intelligent acquerra de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Les insensés méprisent. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, nous voulons recevoir du bon sens. Vous vous rappelez? Vous avez dit avec moi, bon sens. Ben, l'inverse de bon sens, c'est ceux qui sont insensés. Ils n'ont pas le sens des choses. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ça se résume à ça. Et alors, il méprise la sagesse et l'instruction. Méprise ce qui vient de Dieu. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête, une parure pour ton cou. Couronne de grâce pour ta tête. Je crois que c'est pour les garçons, ça. J'aimerais être couronné, être vainqueur, être les champions. Et la parure, pour le coup, ça c'est pour les filles, elles aimeraient avoir des beaux colliers, des bijoux. C'est une façon imagée de dire les choses, mais chacun, homme ou femme, garçon ou fille, on recherche quelque chose dans la vie. Oui? Eh bien maintenant, voilà ce qui nous est dit. C'est l'instruction et l'enseignement qui vont nous communiquer cette faveur de Dieu, qui peut nous faire vivre dans une dimension surnaturelle. Alors Paul écrivait à Timothée, dans la deuxième épître et au chapitre 2, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Toi donc, mon enfant. On peut dire tous ensemble ça. Je me fortifie dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Je me fortifie dans la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est ce qui nous est demandé. Mais si on ne le croit pas et si on ne commence pas à le dire, on ne le fera jamais. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste si vous n'êtes pas fortifié dans la grâce en Jésus-Christ? Il vous reste vos propres forces. Et je vous dis, bon courage. Parce que c'est pas grand-chose. Hein. Quand l'épreuve vient, c'est pas grand-chose. Ça tient pas longtemps. Dans la suite de Timothée, il nous est dit, « Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » C'est le verset 7. « Comprends ce que je dis. » Je dis, mes messages sont simples à comprendre. Ils sont spirituels, mais tout le monde peut les comprendre. Tout le monde, petit ou grand, jeune ou vieux, enfant, adulte, peut comprendre les paroles de Dieu. Peut-être il y en a beaucoup, peut-être des fois c'est de la nourriture solide, mais on peut comprendre des choses simples. Ce sont des choses simples. Permettre à Dieu de renouveler notre intelligence. Vous pouvez comprendre ça, que seul, peut-être je n'y arrive pas. Peut-être certains sont doués, je parle maintenant de nouveau des jeunes, peut-être certains sont doués naturellement, ils ont eu de l'intelligence, des talents, ils sont toujours les premiers en classe, mais d'autres non. Alors, est-ce qu'il faut qu'ils restent sur la touche? Ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez choisir votre destinée. Dieu a une destinée excellente pour vous. Vous pouvez choisir, ça ne veut pas dire forcément faire une carrière dans un domaine intellectuel, mais vous pouvez être un excellent artisan et vous aurez quand même besoin d'utiliser votre cervelle. Eh bien, Dieu est celui qui vous donne ses capacités. Pour ceux qui ont des bons résultats, faut-il se glorifier? 1 Corinthiens, je crois que c'est le chapitre 6, on va regarder ça ensemble, nous le dit et nous le rappelle. Et c'est important pour ceux qui, justement, ont des facilités. Non, c'est 1 Corinthiens 4, pardon. Au verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne, à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Ce que nous l'avons reçu de Dieu. Mais nous devons comprendre que ce que nous avons reçu de Dieu, nous l'avons reçu avant tout à cause de notre capacité de recevoir. D'accord? C'est pas parce que Dieu a décidé, à lui j'en donnerai beaucoup et lui j'en donnerai peu. Il voit la capacité de recevoir. Quand Jésus dit qu'il a donné dans son histoire 10 talents à l'un, 5 à l'autre et 1 au dernier ou 2 selon les histoires, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la capacité de recevoir. Il a vu déjà à l'avant ce qu'ils allaient pouvoir en faire et développer. Mais vous pouvez choisir de passer de celui qui n'en avait qu'un à celui qui en a 2 ou 5 ou 10. Vous pouvez, et c'est important, toujours progresser. Ce n'est pas un évangile pour ceux qui ne veulent pas changer. Nous avons besoin de changement. Vous avez déjà remarqué que vous n'avez pas besoin de décision ou de changement pour vos habitudes. C'est quelque chose qui est simple, c'est évident. Ce que vous faites tous les jours, vous n'avez pas besoin spécialement de le décider. Vous le faites par habitude, il y a des routines, des choses que vous faites toujours. Mais quand vous avez besoin que quelque chose change dans votre vie, vous avez besoin de prendre une décision spécialement pour ça. Par exemple, si je parle maintenant en faveur de ceux qui prient le matin tôt, hein, je ne dis pas que c'est la seule façon de prier. Tout le monde n'a pas besoin de se lever à 5 heures du matin. C'est pas nécessaire. Nous n'avons pas les mêmes rythmes au niveau de nos corps. Mais tout le monde a besoin de préparer sa journée dans la prière, ça c'est sûr. Mais tout le monde n'a pas passé le même temps. Mais si vous décidez devant Dieu, par exemple, je vais prendre plus de temps le matin, il faudra un moment que vous changiez quelque chose dans vos habitudes. Et pour ça, il faudra prendre une décision. Eh bien, chaque changement spirituel que vous faites, ça va vous demander quelque chose. Et pour les enfants, c'est la même chose. Ils peuvent continuer leur scolarité, leur formation, comme ils ont toujours fait, dans le naturel, en essayant tant bien que mal de s'en sortir. Ou alors, on peut prendre des décisions et de dire, à partir de moment, ça va de ce moment, ça va changer. Je décide que des choses vont changer. Et je regarde à la parole de Dieu, en quoi est-ce qu'elle peut m'aider. Je peux prendre, par exemple, Philippiens 4, 13, qui nous dit, « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Je puis tout, pas dans ma propre force, par Christ qui me fortifie. Et il n'est pas dit, « Je puis tout, Jésus va m'aider. » Ce n'est pas tout à fait la même chose. « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Ça veut dire, « Ce que je peux faire, je peux le faire à l'aide de l'onction. » Christ, c'est celui qui est oint. C'est-à-dire la capacité du Saint-Esprit de faire changer les choses. Ce n'est enlevé en rien à la gloire de Jésus que de dire, « C'est la capacité de Christ, celui qui est oint, qui va changer les choses. » « Je puis tout par Christ qui me fortifie » doit être la confession des enfants le matin. Parle des jeunes maintenant, de ceux qui ont des défis ou de ceux qui font des études. De dire « Je vais faire ce que je vais faire dans cette journée à cause des capacités que Dieu met en moi. » Et par son onction, eh bien, il y en a des capacités. D'accord ? Il y a aussi un passage dans Corinthiens où l'apôtre Paul disait, je vais vous le chercher, dans 2 Corinthiens 3, au verset 4, il nous est dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Avez-vous de l'assurance concernant l'avenir? Êtes-vous plein d'assurance? Êtes-vous plein d'assurance? Avec Dieu, vous pouvez être plein d'assurance. Et il nous explique, il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons nous-mêmes par nous-mêmes, capables de concevoir quelque chose venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Est-ce que votre capacité vient de Dieu? Si oui, ça veut dire que vous êtes spirituel. Et chaque fois que vous appuyez seulement sur vous, vous êtes charnel. C'est comme ça, c'est la définition. Si votre capacité vient de Dieu. Acte 17 nous dit « En lui, voilà ce que nous avons en lui ». Il y a tout un petit livret qui reprend les enseignements de tout ce que nous avons en lui, en Christ. Acte 17 nous définit le Dieu au verset 24. « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Il est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples faits de mains d'homme. Comme s'il avait, il n'est pas servi par des mains humaines. » Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Tout le monde dit toute chose? Toute chose. La vie, la respiration, nous comprenons. Mais toute chose aussi. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur, qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Il faut chercher Dieu. Ça ne vient pas tout seul. D'accord? Beaucoup de choses ne viennent pas tout seuls spirituellement. Il y a des gens qui, comme on dit des fois l'expression, ils attendent que ça leur tombe tout rôti du ciel. Ça ne tombe pas tout rôti du ciel comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur. Cherchez Dieu dans vos choses du quotidien. Cherchez-le quand vous avez besoin d'être aidé dans votre travail. Cherchez-le quand vous avez besoin pour vos études. Cherchez-le quand vous avez besoin pour vos enfants. Il n'est pas loin de chacun d'entre nous, il nous dit, mais il faut le chercher. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. On va dire ça ensemble. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous avons tout en lui. Toutes nos capacités. Encore une illustration, je vais le lire de ce petit livret. Beaucoup de choses arrivent simplement parce que nous croyons qu'elles doivent arriver. Donc l'auteur dit, je lus récemment que selon un scientifique, la mémoire se détériore à partir d'un certain âge. Après avoir passé la quarantaine, je constatais que j'avais plus de difficultés qu'autrefois à me remémorer les écritures. Mais au bout d'un certain temps, je me dis, ce n'est pas fatal. Après tout, le cerveau est simplement un organe physique au service de l'intelligence, qui fait partie de notre être intérieur. L'intelligence vient de Dieu. Et l'être intérieur ne vieillit pas. L'homme riche en enfer disposait toujours de son intelligence et de sa mémoire, car Abraham déclare en Luc 16, 25, « Mon fils, souviens-toi ». Dès que je commençais à croire, à penser, à parler comme il convenait, j'arrivais de nouveau à citer toutes les Écritures et à me les rappeler aussi facilement qu'auparavant. Effectivement, ma mémoire s'était améliorée au lieu de se détériorer. Ce n'est pas une fatalité. On n'a pas besoin de décliner. Je sais qu'il y a une action de la mort et du péché sur nos corps. Mais quelle est l'action de l'Esprit de vie en Jésus-Christ alors? Laissons-lui la possibilité de changer notre situation. Il est dit dans Romains 8 justement que l'Esprit de vie qui est en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Et il nous est dit que c'est cet Esprit qui rendra la vie à vos corps mortels. Donc si vous voyez que ça décline quelque part, eh bien, c'est l'occasion de saisir la parole de Dieu, de dire, ce n'est pas une fatalité, je ne vais pas constamment penser que c'est normal, je diminue, et surtout par rapport aux jeunes. Nous savons que les meilleures capacités de mémoire, c'est les plus petits qui l'ont. Et après, ça se développe un peu, et puis au bout d'un moment, les scientifiques disent, ah, maintenant ils sont au maximum, et puis ça diminue plus tard. Bien, si c'est ça que vous voulez croire et dire, alors c'est ce que vous aurez. Mais nous croyons, selon la parole de Dieu, qu'on peut vivre encore d'autres choses. Des choses extraordinaires. Comment on dit extraordinaire? Alors nous avons des choses dans la Bible qui nous aident à ça. Regardez par exemple le psaume 1. Le psaume 1 nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à sa ruine. Dieu est celui qui a voulu pour ses enfants la réussite et le succès. Il n'est pas moins bon que nous pouvons l'être pour nos enfants et désirons de bonnes choses. Je souhaite, je déclare et je crois que mes enfants vont réussir à l'école. Et vous pouvez aussi faire la même chose. Le souhaiter, le croire et le déclarer. Oui. Prenons un instant maintenant la pensée qu'on va trouver dans le livre de Josué. Qui est Josué? Josué est un peu ce que Timothée était pour Paul dans notre esprit. Josué, c'est le serviteur de Moïse, celui qui lui a succédé, celui qui a tout appris de lui. Et donc, d'une certaine façon, Moïse est ce grand homme de Dieu qui a fait des choses prodigieuses, mais qui d'une certaine façon appartient au passé. Vous êtes d'accord? C'était les grandes choses que Dieu a fait autrefois. Et maintenant, Josué est celui qui est la nouvelle génération, celle qui va entrer dans le pays de Canaan. Et donc, ce qui nous intéresse pour nous, c'est aussi, en tant que parents destinés à élever des champions pour Dieu, qu'est-ce que nous, entre guillemets, les vieux Moïse, avec nos expériences, pouvons maintenant transmettre à nos jeunes Josué pour que eux puissent accomplir ce que Dieu a prévu pour eux. Eh bien, il peut y avoir un moment dans la vie des jeunes, comme d'un Josué, un moment où ils se sentent seuls. Et quelque part, il y a des moments où nous sommes tous seuls devant certaines situations. Oui? N'a pas toujours papa et maman près de nous. Il faut prendre nos décisions. Alors, quand nous sommes seuls, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, nous ne sommes jamais tout seuls. Et c'est l'expérience que Josué a faite. Moïse était mort, mais il a expérimenté que Dieu, de la même façon qu'il était avec Moïse, il était avec lui. Et il est venu à lui, lui apportant des promesses. Il lui a dit des choses. D'abord, il a donné des ordres. Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Et c'est l'ordre de Dieu à nous aussi maintenant. Église de Jésus-Christ, peuple de Dieu, lève-toi et passe le Jourdain. Ne reste pas dans le désert. C'est vrai que dans le désert, il y a la manne, il y a le rocher qui nous donne de l'eau, il y a la nuée qui nous abrite de la chaleur, il y a la colonne de feu qui nous chauffe la nuit quand il fait froid. Et donc,